L'actualité francophone avec la radio-télévision suisse, la RTBF en Belgique, Radio-Canada, Radio France Internationale et France Inter. Au sommaire en Algérie, la contestation continue malgré le recul d'Abdelaziz Bouteflika. La France, le naufrage d'un navire au large des côtes atlantiques, pollution à la clé. En Belgique, l'éclairage des autoroutes va changer. Les difficultés des stations de ski de moyenne montagne en Suisse et puis au Canada, un rapport dévastateur sur la mort d'une jeune autochtone. Les personnalités de la semaine, la Belgique Nathalie De Vic rend hommage au cardinal Danneels, décédé ce jeudi à l'âge de 85 ans.
Le cardinal Gottfried Danneels aura marqué l'histoire de l'Église catholique en Belgique, figure bien connue de tous les Belges, souvent interrogé dans les médias sur les grandes questions de société, les rapports entre foi et science, ses prises de position sur le préservatif, l'homosexualité ou encore le rôle des femmes dans l'Église ont donné de lui l'image d'un homme de conciliation, plutôt modéré, mais sa retraite a été assombrie par des affaires de pédophilie au sein du clergé belge et surtout leur tentative d'étouffement présumé par la hiérarchie ecclésiastique, comme dans bien d'autres pays.
En France, la personnalité de la semaine, Bernard Tapie, 76 ans, jugé pendant 4 semaines à Paris pour escroquerie et détournement de fonds publics, un arbitrage lui accordant 403 millions d'euros pour solder son conflit avec le Crédit Lyonnais a été annulé par la justice pour fraude. C'est l'objet de ce procès. Comment a fonctionné cette fraude? Affaibli par un cancer de l'estomac, Tapie se présente en victime. La presse rappelle ses mots célèbre ces 20 dernières années. Exemple, oui, j'ai menti, mais c'était de bonne foi. Ou encore, selon le journal Le Monde, dans la vie, il y a les niqueurs et les niqués. En Suisse, Pierre-Henri Chauffin, le municipal genevois Rémi Pagani est désormais prévenu dans l'affaire des notes de frais.
Oui, des notes de frais exorbitantes qui avaient conduit la justice à ouvrir une procédure pénale pour gestion déloyale des intérêts publics en novembre dernier. Deux membres de l'exécutif de la ville sont désormais entendus comme prévenus. Sans attendre ce statut peu enviable, le démocrate chrétien Guillaume Barazon en avait très vite tiré les conséquences politiques en renonçant à solliciter un nouveau mandat. Rien de tel chez Rémi Pagani, élu de l'extrême gauche. Il rêve même d'être sur les listes pour les fédérales et se mure dans le silence, d'où un agacement perceptible de ses camarades.
Personnalité en Afrique, Charlotte Hydrak, des enquêteurs français chargés d'analyser les boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé en Éthiopie dimanche dernier.
Oui, l'Éthiopie n'a pas les équipements sophistiqués nécessaires pour exploiter des boîtes noires endommagées. Très peu de pays, en fait, dans le monde disposent de ce savoir-faire. Les enregistrements sont donc désormais en banlieue parisienne, entre les mains des spécialistes du BEA, le Bureau d'enquête et analyse. À eux de les faire parler, entre guillemets, pour comprendre comment le Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé avec 157 personnes à bord.
Le Canada, chez vous, Sébastien Desrosiers, une députée qui a fait des vagues dans le paysage politique québécois, Catherine Fournier.
Elle a claqué la porte du Parti québécois. Le Parti québécois, vous savez, c'est le parti associé à la souveraineté du Québec qui a tenu les deux référendums d'indépendance de 1980 et 1995. Un parti qui a connu sa pire défaite électorale en octobre dernier. Alors, selon Catherine Fournier, ce n'est plus le véhicule approprié pour faire du Québec un pays. Elle a dit, à force de perdre, le Parti québécois est devenu perdant. Quand même. C'est la surprise générale parmi ses ex-collègues qui amorce une réflexion donc sur l'avenir de la formation politique.
L'actualité en Algérie, Charlotte Hydrak, Abdelaziz Bouteflika, l'âge du lest, mais la contestation continue.
Après non au cinquième mandat, non à la prolongation du quatrième, les slogans ont changé, mais pas la détermination des manifestants. Méfiance après les annonces du président lundi soir, Abdelaziz Bouteflika a renoncé à se présenter à la prochaine présidentielle. L'élection prévue le 18 avril est reportée. Sine die, une conférence nationale sera organisée, mais pour les protestataires mobilisés depuis 3 semaines, tout cela n'est qu'une ruse, une diversion.
La première fois qu'on est sorti, contre le président, oui, mais maintenant on est contre le système. On sait que le président est parti, mais le système est toujours en place. Ils vont profiter de la période pour continuer leur clan et leur affaire d'avant.
De leur côté, les autorités algériennes l'assurent. Le message a été entendu. Un nouveau gouvernement va être formé avec des experts, des jeunes, des femmes. Le Premier ministre Noureddine Bedoui a lancé un appel à l'opposition.
Nous assurons tous les partenaires et particulièrement les partenaires de l'opposition des possibilités de dialoguer, de parler et de s'entendre.
Des déclarations qui manifestement n'ont pas convaincu. Ce vendredi, des milliers d'Algériens sont de nouveau descendus dans les rues.
En France, le naufrage mardi d'un navire italien, le Grande America, le long de la côte atlantique à 330 km au large de La Rochelle. Il a sombré par 4600 mètres de fond. L'équipage a pu être sauvé. Le bateau venait de Hambourg et devait se rendre à Casablanca quand un incendie s'est déclaré à bord. Il transportait dans ses soutes 2200 tonnes de fioul lourd, 365 conteneurs, dont 45 avec des matières dangereuses, acide chlorhydrique et sulfurique, et un peu plus de 2000 véhicules. Jeudi, on a repéré des nappes d'hydrocarbures sur une dizaine de kilomètres. Réaction du ministre de la Transition écologique, François de Rugy.
Si nous pouvons pomper cette nappe d'hydrocarbures de fioul lourd, donc cette de hydrocarbures qui ne s'évapore pas, hein, qui ne va pas se disloquer autrement que par boulette ou par plus petite nappe. Nous ferons tout ce qui est possible pour pomper, mais il faut être réaliste, c'est extrêmement difficile dans ces conditions de mer.
De son côté, Jackie Bonnemain, président de l'association écologiste Robin des Bois, va porter plainte contre Grimaldi, l'armateur du bateau.
Il va y avoir une marée de déchets divers qui va déferler sur le littoral. Et donc, ça nous renforce dans le fait que la plainte contre Grimaldi est importante et urgente. Il va falloir mettre l'armateur devant ses responsabilités pour qu'il contribue aux frais considérables qui vont être déployés par les collectivités, hein, par les collectivités qui vont encore une fois être victimes de l'inconscience des armateurs.
La Belgique, Nathalie De Vic, se lance dans une première européenne sur son réseau routier, une idée lumineuse.
Pour peu que vous ayez déjà traversé notre pays de nuit, en voiture, vous l'aurez aisément constaté, les autoroutes belges sont quasi les seules à vous éclairer comme en plein jour. Il paraît même que c'est ce qui se voit le mieux depuis l'espace avec la Grande Muraille de Chine. Mais ce confort a un coût et aussi une image de plus en plus discutable en ces temps d'économie énergétique obligée pour épargner notre bonne vieille planète. Deux problèmes bientôt réglés, un gigantesque plan lumière sera lancé dès cet été. Il va s'étendre sur 4 ans, c'est qu'il n'y a pas moins de 100 000 points lumineux à remplacer par un éclairage LED, nettement moins énergivore, qui devrait permettre une baisse de consommation de 76%, soit tout de même 166 000 tonnes de CO2 en moins. En ces temps difficiles, ce n'est pas rien.
Et ce n'est visiblement pas le seul avantage, Nathalie, puisqu'il s'agira d'un éclairage dit intelligent.
Effectivement, il s'adaptera en temps réel aux conditions de circulation, trafic, chantier, météo, grâce à tout un système de capteurs et de caméras interconnectées. La lumière, par exemple, se fera plus intense en cas de mauvais temps ou d'accident. Elle se mettra à clignoter pour avertir de la présence d'un conducteur roulant à contresens ou prévenir de tout autre danger. Les aires d'autoroute, parking de covoiturage, les échangeurs s'éclaireront également à l'arrivée d'un véhicule. Bref, on a beaucoup repensé la sécurité sur nos autoroutes, mais également nos nationales, bien au-delà donc des gains financiers que cela devrait rapporter, du moins quand ce chantier pharaonique sera amorti, 600 millions en 20 ans, estime-t-on, sur des autoroutes qui, rappelons-le, restent gratuites, du moins pour l'instant.
Au Canada, Sébastien Desrosiers, un rapport d'enquête sur la mort d'une jeune autochtone dresse des conclusions dévastatrices.
Ouais, cette jeune fille, elle s'appelle Tina Fontaine. Elle a été retrouvée assassinée en 2014. Son corps avait été repêché dans une rivière à Winnipeg, au Manitoba. Elle n'avait que 15 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa vie? Bien, elle était membre de la première nation Sac-King, située au nord de la capitale manitobaine. Elle a été élevée surtout par sa grande-tante. Son père a été victime de meurtre en 2012. Un véritable traumatisme, on peut l'imaginer. Elle avait fait une fugue 2 ans plus tard pour retrouver sa mère biologique à Winnipeg, avec la fin que l'on connaît. Alors, durant tout ça, la protectrice des enfants du Manitoba, qui a déposé le rapport cette semaine, déplore qu'aucun appui psychologique n'a été offert à la jeune fille. Elle s'était plainte aux travailleurs sociaux, notamment de n'avoir aucun endroit où elle se sentait chez elle. Elle a été victime également d'exploitation sexuelle et encore là, aucun support n'est venu.
Sébastien, c'est un rapport qui a provoqué une onde de choc à travers le pays.
Oui, parce que le meurtre de Tina Fontaine, c'est une histoire qui avait provoqué une certaine prise de conscience au pays. Ça avait contribué à donner naissance à une commission d'enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues, tellement les cas sont nombreux. On attend toujours les conclusions de cette enquête, mais déjà la commissaire Michèle Audette dit être inspirée en quelque sorte par Tina Fontaine.
Nous sommes tous et toutes responsables d'une situation comme celle de Tina Fontaine. Nous sommes toutes responsables d'un petit ou d'un grand changement. Alors, j'espère que son héritage va faire en sorte qu'on dise une fois pour toutes, c'est assez.
Et pour ajouter à la frustration des proches de Tina Fontaine, son meurtre demeure une affaire non résolue.
La Suisse, les stations de moyenne montagne ne doivent pas renoncer au ski. Le canton de Fribourg en est convaincu, Pierre-Anne Chauffin.
Même si ces dernières années, on enregistre en moyenne une journée d'enneigement de moins par saison, changement climatique oblige, l'État devrait soutenir ces remontées mécaniques. À la différence des Alpes valaisannes, Fribourg se caractérise pourtant par des stations de moyenne altitude qui souffrent davantage de la raréfaction des flocons.
Pierre-Anne, et comment ce canton veut-il maintenir ses infrastructures touristiques ?
Eh bien, le plan Préalpes Vision 2030 n'articule pas de montant, mais il prévient bien, noir sur blanc, d'un soutien public aux investissements pour pérenniser l'exploitation des télécabines et autres tire-fesses. Il envisage également le recours aux canons à neige dans les tronçons sensibles. Et si les autorités parient ainsi sur le ski, c'est que ces sociétés génèrent dans la région plus de 50 millions de francs de retombées économiques. Aussi parce que les skieurs sont plus dépensiers dans les commerces que les randonneurs estivaux. Et Michel Lozet, président des remontées mécaniques fribourgeoises, se réjouit du maintien de l'engouement pour la glisse.
Il y a eu plus de 300 000 premiers passages sur nos remontées mécaniques à fin février 2019. L'engouement pour ce sport d'hiver est vraiment présent. Il est dû à deux critères principaux. La proximité de nos stations par rapport aux gens qui viennent skier. Un élément qui a été aussi très positif, c'est le Magic Pass.
La proximité donc est le Magic Pass, cet abonnement général pour une trentaine de stations lancé il y a 2 ans. Il a donné un coup de fouet à la fréquentation et aux chiffres d'affaires du secteur, sans toutefois empêcher les remontées mécaniques de la station fribourgeoise de Charmey d'annoncer leur dépôt de bilan ce vendredi.
C'était l'actualité francophone, à la semaine prochaine.